Qu'avez-vous, mes très chers?
I dream about you.
argentin, vibrant, sombre et strident. Quel troupeau mandarin assemblé d'un seul cri, comme un migre sauvage au brouillard d'octobre. Mystère du son, mystère du sang, pulsation tempérée du tempo modéré, pris vers les 11 heures d'un honnête homme ayant déjeuné. Pulsation, martelant les tempes quand on gît sur le dos, la tête en arrière, bruissant comme un sable versé.
Votre 7 à 8 cinéma, tous les mercredis sur Radio Campus 88.3 FM.
Avec nous, venez faire le plein de bobines. Rendez-vous à la prochaine séance. Alors, on se fait un film.
Le mercredi, de 19h à 20h, sur Radio Campus 88.3 FM.
Et bonsoir, chers auditeurices. Vous êtes bien sur Radio Campus Orléans. Et pardon pour ce retard, mais nous sommes là pour l'émission qui va parler de l'actualité cinématographique. Et heureusement, je ne suis pas toute seule, car j'ai avec moi Claude. Ah, tu peux réessayer ? Eh bien, alors, attends, on ne t'entend pas. Je vais juste passer un peu de son et on se retrouve juste après pour l'émission. Et on revient sur Radio Campus Orléans pour l'émission. Alors, on se fait un film. Oui, désolé, petit problème technique entre le retard et des petits changements, mais on va y arriver. Et donc, ce que je disais au départ, c'est que je ne suis pas seule. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Claude. Bonsoir Claude.
Bonsoir Céline.
Ah, c'est agréable de t'entendre.
Merci.
Comment tu vas ?
Ça va, et je salue bien bas nos fidèles auditrices, Dani et autres consoeurs, et sans oublier les grands absents, Emmanuel et toute la famille SEPA, Fabien, Michel, qui vont, j'espère, revenir bientôt.
En tout cas, dans deux semaines, on aura une émission consacrée au top 5 de ce premier semestre et il y aura Gob qui revient pour nous faire son top 5. Il y aura peut-être Marine également pour cette émission. Mais donc ce soir, on va donc parler des films qu'on a vus dernièrement. Et à chaque émission, je commence aussi par un petit agenda.
L'agenda, bien sûr.
Alors, très court, par manque de temps. Mais je voudrais quand même parler d'un festival qui va commencer le 2 juin, qui aura lieu à Ingré, qui est le festival du film social de l'ASPAC, une association qui organise des événements autour du cinéma. Et donc, ce festival se déroulera du 2 au 4 juin à l'espace Lionel Boutrouche. Et donc, vous pouvez trouver toutes les informations de ce festival sur leur site internet aspac.fr avec la programmation. Je vous laisserai donc...
Et je crois avec la présence de Guillaume Canet le 2 juin.
Normalement, oui. Justement, j'allais sur leur site internet pour revoir un peu le détail de la programmation de ce festival. Et effectivement, ils invitent Guillaume Canet et Alex Lutz, donc qui seront présents au festival. Je n'ai pas, par contre, les dates où ils seront présents. Mais donc, il y aura la projection... Donc, non, il n'y a pas encore le détail. Bon, je vous laisserai regarder. N'hésitez pas
à aller
sur leur site internet ou sur les réseaux sociaux. Voilà un tout petit agenda, mais comme on est en retard, c'est pas plus mal. Est-ce qu'on peut du coup commencer par un des films qu'on a pu voir ? As-tu pu regarder War Pony ?
Oui.
Oh, super.
J'y suis allé hier, dans des conditions pas excellentes pour moi. Enfin bref, et j'ai aussi vu Ramona,
oui.
Je crois que tu as vu.
Oui.
Ramona fait son cinéma,
oui.
Et moi je l'ai connu tout simplement sous le nom Ramona.
Oui, effectivement, il y a les deux titres.
Au festival de La Roche-sur-Yon,
mm-hmm.
où il était présenté, qui est un premier film. Alors je te laisse choisir le film que tu veux chroniquer.
Eh bien, on peut commencer par War Pony. Oui. Donc c'est un film qui a été réalisé par deux réalisatrices, Gina Gamel et Riley Kyok, qui sont américaines. Et c'est un premier film, donc elles réalisent toutes les deux, qui a quand même reçu la caméra d'or à Cannes l'année dernière. Donc c'est qui récompense, c'est un prix qui récompense les premiers films, et donc c'est le meilleur premier film. Donc j'avais vraiment envie de le découvrir au cinéma. Rapidement, le pitch du film, l'histoire se passe dans le Dakota du Sud, dans une réserve amérindienne qui se nomme Pine Ridge.
Réserve de Sioux,
oui. Il y a différentes tribus, il y a différents noms, mais effectivement, c'est une réserve de Sioux. Oui. Et on suit donc l'histoire de Mato qui a 12 ans, qui est un enfant, qui expérimente, et Bill, qui lui a 23 ans, et qui tente de gagner sa vie. Et donc, tous deux, on les suit en parallèle et tous deux donc, cherchent une place dans cette société bien hostile. Donc, les deux réalisatrices filment, du coup, une autre Amérique qu'on ne connaît pas forcément bien. Qu'on voit en tout cas rarement au cinéma. Et donc, elle donne ainsi une voix aux invisibles, qu'on peut les appeler comme des invisibles, une communauté marginalisée, confrontée vraiment à la misère sociale et humaine, et confrontée aussi à l'exclusion. Et pour ce film, elle choisit une mise en scène naturaliste, presque documentaire. D'ailleurs, le scénario a été coécrit avec deux Amérindiens qui vivent dans cette réserve où se situe l'histoire. Et les comédiens et comédiennes sont des locaux également, non professionnels. Donc, elles ont vraiment fait l'effort de travailler avec des personnes amérindiennes pour justement coller le plus à la réalité. Et effectivement, ça fonctionne. Et on le perçoit vraiment dans la... On perçoit quand même quelques justesses dans le jeu des comédiens et des comédiennes. Mais bon, c'est pas très grave. Au contraire. Et je trouve qu'on éprouve beaucoup de compassion pour ces deux personnages, Bill et Mato, qui traversent beaucoup d'épreuves. Et puis on éprouve, je trouve, la rage face au mépris des dominants qu'on voit aussi pendant le film. Et c'est très... je pense que c'est vraiment proche de cette réalité qu'ils doivent vivre et ressentir. Et même si ce type de scénario est peut-être déjà vu... pour parler des minorités, je trouve que c'est quand même nécessaire de toujours faire un film. Il n'y a jamais assez de films pour parler des minorités. Et ce n'est jamais assez pour faire changer notre société. Voilà, un film que j'ai plutôt apprécié. Et toi, Claude ?
Oui, alors, t'as raison, c'est un film qui est plus proche pour moi du documentaire que du film de fiction. Et c'est vraiment un film qui décrit un monde sans espoir. C'est-à-dire que aussi bien les hommes de la quarantaine que les hommes de 12 ans n'ont absolument pas d'espoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on sait qu'on n'aura pas de travail, aucun espoir non plus de quitter cette réserve, parce que dès qu'on la quitte, ça devient dangereux pour eux. Ils rencontrent le monde des Blancs, ils
connaissent pas les codes,
ils n'ont pas les codes, ils sont quasiment parqués en fait. Ils ont il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de grillage, mais ils sont quasiment parqués psychologiquement et socialement. Donc ils vivent vraisemblablement de substituts des USA qui doivent faire qui doivent donner des aides. C'est un film où ils sont en apnée totale, quoi. Ils sont portés à bout de bras.
Et l'alcool et la drogue.
On sait qu'on peut pas, qu'on n'a pas d'espoir, qu'on peut pas travailler et qu'on doit vivre malgré tout, qu'est-ce qu'on fait? Comment vit-on? Il n'y a pas de moyen de s'échapper de ce milieu parce que, comme je l'ai dit précédemment, c'est dangereux si on s'éloigne de. Parce qu'ils sont relativement en sécurité quand même dans leur réserve. Ils sont en sécurité. Mais c'est quoi l'espoir de gens qui savent que de toute façon, ils ne pourront pas s'en sortir. C'est-à-dire ils ne pourront pas. C'est-à-dire c'est des gens qui ne pourront pas exister socialement, psychologiquement, ils ne pourront pas exister. C'est quand même une scène c'est suicidaire pour eux. Et d'ailleurs, ils ne se suicident pas, mais ils se shootent, ils se droguent avec des mauvais produits en plus. Et puis, ils essayent de faire quelques coups de temps en temps pour, je dirais, améliorer l'ordinaire, quoi. Mais
on est loin du rêve américain, en tout cas.
Ah, on est très loin du rêve américain. C'est filmé, moi, je dis que c'est filmé correctement. Il y a un chef-op qui se débrouille très bien au niveau de la colorimétrie. C'est bien, C'est bien fait. Les plans sont plus que corrects. Mais c'est un film qui est désespérant, quoi. Enfin, moi, je suis sorti, j'étais désespéré. Et je crois que si on ne peut pas dire que c'est un grand film, parce qu'on ne peut pas, avec un tel sujet, faire un grand film. On peut faire qu'un film, je veux dire, qui démontre qu'on tourne en rond.
Mais c'est ce qu'elle dénonce, effectivement.
Elle le dénonce.
Oui. C'est vrai qu'il y a très peu d'espoir. Après, il y a des passages qui donnent quand même... on ressent qu'il y a une solidarité dans cette communauté.
Il y a une solidarité dans la communauté, mais pas en dehors de la communauté.
Oui, c'est ça.
Il ne faut pas qu'ils s'éloignent. C'est là où je dis qu'ils sont toujours parqués, finalement, parce que c'est d'autres barrières qu'ils vont rencontrer. Et ils ne peuvent pas s'éloigner de leurs réserves. C'est dramatique. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est un monde sans espoir. Et bon, je sais pas ce que l'on peut faire pour ces gens-là.
Mais je trouve que déjà leur donner une visibilité, la parole et d'en faire un film, un film quand même qui est travaillé, qui a une exigence esthétique et qui du coup par cette qualité est sélectionné dans les festivals comme celui de Cannes, qui a une visibilité internationale et ça donne une autre place à ce peuple. Et ça, c'est ça aussi le cinéma, c'est d'essayer de...
Alors, pour les jeunes femmes, c'est pas montré, mais c'est dit à un moment, elles se prostituent.
Ah oui, non, mais c'est vrai qu'elles parlent beaucoup des hommes et qu'on voit les femmes en second plan. C'est aussi très dur ce qu'elles vivent. Elles ont l'air de vivre plus longtemps que les hommes, par contre, parce que la plupart des personnes âgées sont plutôt des femmes.
Oui.
Mais c'est terrible, leurs conditions de vie. Et c'est vrai que quand on parle de domination entre les blancs et les personnes racisées, et ici les Amérindiens, la domination, elle est effectivement entre les hommes pour la couleur de peau, mais dans la réserve, la domination se fait aussi entre les hommes et les femmes.
Oui.
Et les femmes, elles sont vraiment soumises par...
Je mettrais quand même une réserve, elles sont soumises, mais il y a une maîtresse-femme qui s'occupe des enfants complètement déshérités.
Ah, oui,
je veux dire, c'est la vraie matrone, hein. Faut pas plaisanter avec elle, hein.
Alors oui, mais après, elle survit aussi.
Ah ben elle survit, mais tous survivent, que ça soit femme ou homme, ils survivent tous dans cette.
Oui.
Ils sont maintenus en apnée totale,
Mais moi, je pense aussi à cette jeune femme qui est en prison et qui n'a aucune visite en fait, qui n'est pas soutenue alors que si ça avait été un homme qui avait été en prison, il aurait eu la visite de sa compagne ou de la personne...
Pas forcément, Céline, pas forcément.
Les prisons des hommes sont beaucoup plus visitées que les prisons des femmes.
Je ne sais pas,
Je te le dis.
C'est à vérifier. Je te dirais aussi qu'il y a moins de femmes en prison que d'hommes.
Alors peut-être, mais là c'est pour d'autres raisons.
Pour d'autres raisons, oui.
On fait une... Tu veux dire quelque chose d'autre
sur
le film ? Du coup, on peut faire peut-être une pause musicale. Moi, j'aimerais faire un petit hommage au compositeur japonais Ryushi Sakamoto, qui nous a quittés à la fin du mois de mars 2023. Il avait 71 ans et c'est un compositeur qui a travaillé avec de très grands... Oui, tu veux dire ?
Oui, je veux dire, tu fais bien de parler de compositeur de musique de film parce que la composition de la musique de film sur Poniwa n'est pas du tout anonyme. J'ai été pris par cette musique qui donne de l'anxiété et de l'intensité au film. Et je me disais, si on ne mettait pas cette musique, je veux dire, alors là, ça serait complètement plombant.
Un autre film. Ah, mais alors... Oui,
je me suis imaginé les plans à un moment sans musique. Mais ce serait... Alors que cette musique donne quand même une... un semblant d'énergie aux gens qui sont là.
Et peut-être parce qu'il y en a, effectivement. Et c'est vrai que tu as raison, l'importance du choix des musiques, de la bande sonore est
très importante. Je ne sais pas qui a fait la musique de ce film, mais...
C'est deux... J'ai regardé parce que je voulais justement passer quelques morceaux. Et c'est deux compositeurs. Je crois qu'ils sont américains. Ils ne sont pas très connus. Mais je n'ai pas trouvé la bande originale. Tu
n'as pas trouvé la bande, c'est dommage, parce que c'est pas une musique anodine. Elle est très réussie, la musique.
Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais malheureusement, elle n'est pas... Enfin, je ne l'ai pas trouvée. Et du coup, j'ai préféré faire cet hommage à ce compositeur, Sakamoto, parce qu'il a travaillé avec beaucoup de réalisateurs et réalisatrices. Donc il nous a quittés récemment et c'est peut-être sa dernière composition, c'est la musique du dernier film de Kore-eda qui est au Festival de Cannes en ce moment, Monster. Et donc du coup je voulais qu'on écoute quelques morceaux. Et alors il en a fait énormément, j'ai fait une petite sélection pour l'émission et donc pour le premier extrait, c'est la bande originale du film Proxima de la réalisatrice Alice Vinocourt qui date de 2019. Et donc on écoute et puis on se retrouve juste après pour continuer l'émission. Sur Radio Campus Orléans 88.3 FM et on vient d'écouter un morceau de la bande originale du film Proxima. Bande originale créée par Sakamoto, Ryuichi Sakamoto qui nous a quittés le 28 mars 2023. Et donc c'est un travail qui est très très aérien, qui nous emporte. En plus le film... le film qui se passe, je ne l'ai pas vu le film, mais qui se passe dans l'espace, enfin une partie. Du coup, ça permet vraiment de s'évader. Et je vous proposerai après, tout au long de l'émission, d'autres BO qu'il a pu créer, parce qu'il a travaillé avec énormément de réalisateurs et de réalisatrices. On continue avec nos chroniques de films et donc le film suivant qu'on a vu tous les deux, c'est Ramona fait son cinéma.
Film espagnol.
Tout à fait, de Andrea Bani.
Premier film.
Qui est aussi un premier film de cette réalisatrice, qui est une comédie romantique. Le pitch, c'est donc de retour à Madrid avec son petit ami Nico. Ramona veut tenter sa chance comme actrice. La veille de son casting, elle fait une rencontre qu'elle ne doutait pas. Eh bien, c'est un premier film qui est assez intéressant, avec beaucoup de références. J'ai trouvé un mélange entre beaucoup de références au cinéma de Woody Allen.
Oui.
Que ce soit à l'image ou même dans les répliques. Et aussi, on pense beaucoup... Alors, dès qu'on parle de cinéma espagnol, on pense beaucoup à Almodovar, sur la couleur, parce qu'elle a fait des choix entre le noir et blanc et la couleur. Donc la couleur, quand son personnage est dans le film du film... Et donc, la réalisatrice s'intéresse beaucoup à la relation entre le réalisateur et l'actrice. Et aussi, beaucoup, je trouve, à la relation amoureuse dans le couple ici hétérosexuel. Et le personnage principal, Ramona, je trouve, est très attachant, très charismatique. J'ai plutôt aimé ses références au cinéma de Woody Allen qu'elle a repris et qui est du coup féminisée, je trouve. Parce qu'elle tourne, donc, comme je le disais, en noir et blanc. Elle a fait le choix de tourner aussi en pellicule, en 16 mm.
Oui, elle a tourné en 16 mm. Mmh. Oui.
Du coup, ça m'a fait penser à Manhattan, forcément.
Alors, je ne sais pas. Moi, c'est ce que j'ai vu et c'est ce qu'on m'a dit à La Roche-sur-Yon. Je ne sais pas si le film n'a pas été numérisé maintenant. Parce que toi, qui connais mieux la technique du cinéma que moi, des projecteurs 16 mm, il ne doit pas y en avoir beaucoup.
Alors, il n'est pas projeté en 16 mm. Oui, il a été numérisé. Bah, pour la plupart des films qui sont tournés en pellicule, parce qu'il y en a encore.
Oui, oui.
Mais oui, ils sont numérisés parce que c'est aujourd'hui, pour les salles de cinéma, alors, il y a des exceptions où certaines salles projettent encore exceptionnellement. D'ailleurs, c'est souvent marqué que c'est en pellicule. Mais non, les films maintenant sont numérisés.
Et pour l'anecdote, dans ce même festival, j'avais vu un des premiers courts-métrages de Jean Eustache qui s'appelle Le Cochon. Et alors, j'avais le projecteur 16 mm derrière moi et j'entendais clic, 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 clic pendant tout le... Mais ça ne m'a pas dérangé pendant tout le... Ça m'a rappelé des souvenirs de... Clic, 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 pendant tout le... Alors là, on est vraiment dans noir et blanc, 16 mm et en pellicule que je voyais défiler. Ce qui n'est plus le cas maintenant.
Non,
donc, je te laisse poursuivre.
Juste pour dire que... Alors, toi, tu l'as vu à Angers, je
non,
suppose.
À La Roche-sur-Yon.
Pardon, à La Roche-sur-Yon.
Il n'a pas été sélectionné à Angers.
Ah, je pensais qu'il...
Non, c'est à La Roche-sur-Yon.
D'accord. Ok, c'est ce que j'avais cru voir.
Qui est souvent à La Roche-sur-Yon, un festival de premiers films aussi.
Ok.
Et j'ai vu des films... qui n'ont pas été premier film et qui n'ont pas été sélectionnés à Angers. J'en ai vu un autre, un film très très moyen, qui s'appelait La Méduse, et je sais même pas s'il est sorti en salle.
Oui, malheureusement.
C'est pas La Méduse, Méduse, pardon, Méduse, sur d'accord. Le mythe de Méduse, voilà.
Oui, malheureusement, tous les films ne peuvent pas sortir, même si on commence à sortir de cette vague Covid où tous les films sont a priori ont tous été en salle, on va commencer à reprendre un rythme un peu plus normal. Mais néanmoins, beaucoup de films ne sortent pas. Malgré leur sélection au festival, tout ne peut pas sortir. Mais pour ce film, en tout cas, peut-être pour la particularité de ce cinéma, j'ai trouvé que ce n'était pas décevant et que j'avais bien envie de la suivre pour ses prochaines réales.
C'est quand même loin de Woody Allen, c'est moins appuyé.
Oui.
C'est... Alors, en fait, c'est l'histoire d'un amour non consommé.
C'est aussi un choix.
C'est l'histoire d'un amour non consommé, c'est un choix. C'est quand même un film qui a beaucoup de sensibilité et filmé avec beaucoup de distanciation. Et il pose la question, a-t-on le droit de s'empêcher de vivre un amour ? C'est moi ce que je l'ai conclu. A-t-on le droit de s'empêcher de vivre un amour ?
Mais elle vit quand même un autre amour.
Elle vit un autre amour, mais pas celui qu'elle aurait pu vivre. On va pas
c'est
raconter.
Des choix.
C'est un choix, on ne va pas raconter ce film. C'est un film, je dirais, qui a beaucoup de fraîcheur.
Oui.
Beaucoup de fraîcheur. C'est pas un très grand film.
Mais grâce à l'actrice, je trouve.
Oui. Oh, l'acteur est très bon aussi. Hein.
Oui, je trouve qu'il est moins charismatique qu'elle.
Mais c'est... Bon, pour un premier film, je veux dire qu'il y a... c'est très correct. Je veux dire, c'est pas un film qui va marquer... Mais au moins, elle sait faire du cinéma, quoi. Mm. C'est déjà important. Elle fait pas d'erreur, ni dans le scénario. Les scènes sont plutôt... C'est du film très classique, travelling, chant contre chant. Enfin, on n'est pas... Il n'y a pas une écriture cinématographique.
Mais il y a une volonté quand même de tourner en pellicule.
Mais il y a une volonté de ouais. tourner en, c'est en
pas,
pellicule.
C'est
mais
pas si évident,
on est très loin de notre amie Alice Rett qui tourne en pellicule et en 16 mm. C'est qui... Parce qu'en fait, ce que je reproche, c'est quand tu tournes en noir et blanc en pellicule, tu as des possibilités énormes. Énormes. Si tu as un bon chef-op, tu peux beaucoup plus t'exprimer de par les plans et la caméra en noir et blanc qu'avec de la couleur. Et ça, elle ne l'a pas utilisé.
Effectivement, ça reste basique.
Oui, ça reste très basique.
Elle a fait un choix.
Elle n'a pas appréhendé le noir et blanc.
Oui, c'est juste un peu comme une excuse de différencier les passages du film dans le film.
Voilà. Oui, oui.
Et c'est vrai que ça n'apporte pas autre chose. C'est vrai que ça, c'est dommage.
Bon, ben enfin, c'est un premier film. Hein. On peut excuser. C'est pas facile de faire du cinéma. Hein. Mm-hmm. Et moi, je trouve que c'est un film très, très correct.
Qui fonctionne, oui.
Oui, ça fonctionne. Mm-hmm. Je veux dire, je ne sais pas si il fait beaucoup d'entrées. Moi, je dirais que c'est un film gentillé. C'est une comédie romantique, comme tu as dit. Qui manque peut-être. Alors, si on veut aller dans la comédie romantique, qui manque peut-être un peu de romantisme et de punch. Enfin, c'est un peu plat quand même. C'est un peu plat. Mais c'est quand même un film intelligent. Le scénario est très, très intelligent.
Oui, intelligent, intéressant.
Oui, le scénario est intelligent.
Et sur la fin, je trouve que c'est bien amené. On s'attend pas à
la fin, on va pas en parler, mais
on n'en parle pas.
On en parle, mais la fin est intéressante.
Mais je trouve que, voilà, au niveau du scénario, c'est très, très intéressant. Justement pour ça, je trouve qu'elle s'en sort vraiment bien, que c'est très bien écrit et mis en scène.
Le scénario, est solide.
Oui.
Il est solide. Ce qui est très difficile d'avoir des scénarios solides. Hein. Petite pause musicale avant d'entamer
la
dernière partie.
Donc, on continue sur les bandes originales créées par Sakamoto, donc ce compositeur japonais. Si je vous dis Furio de Nagisa Oshima.
Oula, Furio.
Oui, un très grand film de 1983 où il y a David Bowie,
oui.
Oui. Et donc, je vous propose de découvrir cette bande originale qui va certainement vous parler. On arrive. C'est évidemment les aléas de la technique, mais on va y arriver. J'espère. Voilà.
Thank you.
maintenant pour être à la cour. On l'aide à intégrer ses codes. Et notamment, il y a un personnage qui est très important, qui est joué par Benjamin Laverne. Alors, je ne sais pas comment on appelle la personne qui est chargée du protocole. Est-ce que c'est le chambellan? Est-ce que c'est... il est chargé, en fait, d'accompagner Mai Wen, de lui apprendre les bonnes manières. Et la relation qu'elle a avec cet homme... qui au départ est relativement sévère, s'adoucit. Et ce que filme très bien Mai Wen, c'est la complicité qui va s'établir entre cet homme qui a certainement beaucoup d'affection pour Jeanne du Barry et Jeanne du Barry. D'abord, c'est analysé très finement. Les scènes qu'elle choisit pour analyser cette complicité, c'est fait par des regards, et c'est très bien fait. Sa relation avec Louis XV, donc joué par Johnny Depp. Johnny Depp est en mode. Non, j'aime pas utiliser ce mot. Johnny Depp est un Louis XV dépressif, peu, à part sexuellement, mais peu actif, qui s'ennuie vraiment. Je veux dire, quand on était roi, on devait vraiment s'ennuyer. Et cette relation-là, moi, je dis qu'elle n'est pas mise suffisamment analysée. C'est pour ça que je disais, je n'ai pas retrouvé l'ADN de Mai Wen. Ces scènes qui auraient dû être des scènes très importantes, il y avait des choix de scènes dans le scénario à faire pour montrer la relation qu'elle avait établie avec le roi. Donc, à part à la fin, sur les scènes de sa disparition quand il est sur son lit de mort. Là, il y a une certaine puissance. C'est en plus très bien filmé. Mais la relation amoureuse, elle n'est pas... c'est pas mis en exergue. Les choix de scènes qui auraient dû expliquer cette relation, moi, je ne les ai pas vus. Et... elles ne sont pas... C'est ça au niveau du scénario. Là, il y a quelque chose qui, à mon avis, cloche au niveau du scénario. Alors, cette Jeanne du Barry, qui était vraisemblablement une rebelle, jouée par Mai Wen, est assez crédible. Elle aurait pu exister, elle était peut-être comme ça, on ne sait pas. Alors, il y a, par contre, un portrait au vitriol des trois filles de Louis XV. Mais alors, un portrait au vitriol. Ces trois godiches de première... Et alors, pour démontrer que ce sont des filles peu intelligentes, godiches, relativement mal élevées en plus, les scènes qu'elle a choisies là, sont extrêmement réussies. Et je pense que si elle n'a pas réussi à filmer cette histoire d'amour entre Louis XV et elle, c'est parce qu'elle joue dans le film et qu'elle est aussi réalisatrice. Moi, je pense que ça peut être... un handicap. Je ne sais pas comment font les gens qui à la fois tournent et jouent dans le film. J'avais posé la même question à Roche Dizaine dans le film qui s'appelait Les Miens. Pareil. C'est pareil. Il aurait fait jouer le rôle qu'il a par quelqu'un d'autre, ça aurait été beaucoup plus crédible. Et là, je pense que le fait que ce soit Mai Wen qui joue la Jeanne du Barry et qui réalise, je pense que c'est quelque part un handicap. Et ce qui, effectivement, donne la relation amoureuse entre elle et le roi quelque chose de qui n'est pas analysé suffisamment. Alors, Mai Wen a déclaré dans la presse qu'elle avait choisi Johnny Depp parce qu'elle avait envie d'embrasser Johnny Depp. Vrai ou pas, je ne sais pas, mais c'est ce qu'elle a dit. Mai Wen est une femme extrêmement libre, donc elle
oui,
fait... c'est une femme très libre. Hein.
Oui.
Non, mais...
La liberté, une certaine liberté que les hommes acceptent aussi. C'est pour ça qu'elle a cette liberté que les hommes lui donnent, parce que justement, elle fait ce que les hommes veulent. Et c'est...
Bon, elle, fait moi, ce je... elle fait ce qu'elle veut.
Elle a son réseau bien masculin.
Oui, peut-être, mais elle fait ce qu'elle veut. Ce n'est pas un homme qui veut lui dire qu'il faut faire ça ou ça.
Du coup, elle joue, en fait. Elle fait juste du cinéma pour s'amuser, pour s'occuper. Et moi, je trouve que c'est scandaleux que ça fasse l'ouverture du Festival de Cannes et de choisir un Johnny Depp, vu le scandale qu'il y a derrière.
Attends, Johnny Depp, il a été jugé, il a été acquitté.
Pour la diffamation, pas pour les violences conjugales. Pour la diffamation,
on n'est pas là pour faire le procès des acteurs.
Ah, mais moi, je ne sépare pas l'homme de l'artiste. Hein. Je suis désolée. Je ne peux pas. Bon, je te laisse terminer.
Oui, je laisse terminer. Je dis, il y a toujours l'artiste, l'auteur, et l'homme. Je t'ai toujours dit que je prenais pour exemple Yves Montand, que je prends pour un excellent chanteur, mais que je déteste énormément pour des raisons qui ne sont pas des raisons d'ordre de relation avec des femmes. Mais je vais le dire, tout simplement parce que Gainsbourg, quand il n'arrivait pas à sortir, qu'il avait brûlé toutes ses toiles, a été voir Yves Montand pour lui demander « Est-ce que vous pouvez m'aider ?» Et il l'a foutu dehors, alors qu'Yves Montand a été un type qui a été extrêmement aidé par Édith Piaf, par les femmes et par Simone Signoret. Il a foutu Gainsbourg dehors, et ça, c'est quelque chose que je trouve inadmissible.
Il
a été extrêmement aidé, et pour moi, l'homme Montand, par contre, j'adore le chanteur. Je sépare les deux. J'adore le chanteur.
Ouais,
donc, ce film, est-ce que c'est un grand film? C'est un film qui se voit. C'est un film qui se voit, qui est bien réalisé. Il y a un bon chef-op, une fois de plus. Hein, doit savoir s'entourer. Mais c'est... est-ce que c'est un film qui se radate? Je pense que si on voulait faire un film sur Jeanne Dubarry et Louis XV, on peut refaire un film. Je ne pense pas que ce soit le premier qui a été fait, d'ailleurs. Ça n'a pas été fait, déjà ?
Je ne sais pas. Je
n'ai pas regardé, je n'ai pas eu le temps. Mais je regarderai. Donc, écoutez...
Elle a choisi Johnny Depp, peut-être pour l'embrasser, mais aussi parce qu'elle savait que ça ferait un scandale aussi. Enfin, ce n'est pas anodin non plus.
Je ne sais pas. Je ne fréquente pas Mai Wen. Je n'ai pas d'informations. À part ce qu'elle déclare dans la presse. Et j'ai écouté son interview en prenant un petit déjeuner sur France Inter par une excellente journaliste qui s'appelle Siona de Villers, qui sévit le matin entre 9h et 10h, je crois. Et
Écouter Radio Campus.
Comment ?
Il faut écouter Radio Campus.
Non, mais j'écoute à 9h, j'écoute Siona de Villers, qui est une excellente, excellente journaliste. Bon, eh bien, écoutez, j'en aurais terminé avec Mai Wen, Johnny Depp, mais surtout Benjamin Lambert, qui a un rôle très intéressant. Je ne sais pas si on dit c'est le majordome, c'est le chef du protocole. Je ne sais pas comment on peut déterminer sa fonction, mais... Et cette relation de complicité... Alors là, la relation de complicité est très bien analysée. Là, je crois que ce qui ne marche pas dans ce film, c'est que c'est Mai Wen qui joue. Elle aurait dû réaliser le film, mais pas jouer.
Pour moi, elle aurait dû rien faire, mais... C'est mon avis. Eh bien, on arrive à la fin de cette émission.
Oui.
C'est parfait. Pour terminer, je vais juste passer un dernier morceau pour finir l'hommage au compositeur japonais Sakamoto.
Et je dirais quand même qu'il y a un grand film qui passe à l'heure actuelle, qui est un film turc qui s'appelle Burning Day. Allez voir ce film.
Il est encore à l'affiche ?
Ah, il est encore à l'affiche. Au moment où Erdogan va vraisemblablement gagner les élections, je vous assure, allez voir ce film. C'est un film sur les mafieux. Je crois qu'il a été censuré en Turquie, je ne sais pas. Mais c'est un film d'abord courageux, extrêmement courageux. Et c'est un film qui est extrêmement bien joué. Et avec un scénario mais extrêmement solide. Burning Day, c'est un très, très, très grand film.
Eh bien, allez-y, parce qu'il doit rester très peu de séances. Et donc, on va vous laisser donc avec ce dernier morceau de Sakamoto. On vous dit, pour notre part, dans 2 semaines, pour le top 5.
Ah bon, c'est dans 2 semaines, le top 5 ?
Oui, c'est ça. D'accord. Le 7 juin, mercredi 7 juin, oui, c'est dans 2 semaines. Donc, mais par contre, la semaine prochaine, toujours tous les mercredis soirs, 19h-20h, c'est l'émission de cinéma, c'est l'autre équipe, mercredi prochain. Et puis, restez sur Radio Campus Orléans et on vous souhaite une très bonne soirée.
Alors, je rajoute sur mon talk five, il va être fait facilement parce que, à part, il y a, depuis le début du mois de septembre, il y a 5-6 films. Non, c'est pas septembre pour nous, c'est depuis janvier.
Oui, depuis janvier.
Il y a 5-6 films qui sortent du lot et le reste, si vous avez vu, c'est bien.
Ouais. Allez, je vous laisse écouter quelques secondes du morceau et puis restez sur les ondes de Radio Campus et allez au cinéma.
Bye bye.